Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Initiale histoire du 19e siècle, nouvelle édition 2021, est un ouvrage de synthèse historique publié chez Hatier. Il réunit Serge Berstein, Pierre Milza, Gisèle Berstein, Yves Gauthier et Jean Guifan autour d'une présentation de grande ampleur du 19e siècle. Avec ses 576 pages, le livre vise principalement les étudiants en histoire, en institut d'études politiques et en classe préparatoire littéraire, tout en restant utile à un lectorat désireux de structurer sa connaissance de la période. Cette édition reprend un classique de la synthèse universitaire dans une maquette en couleur. Elle annonce des introductions de chapitres, des documents iconographiques, des cartes, des graphiques, des sources et des citations. Son propos ne consiste donc pas seulement à dérouler une chronologie, il cherche à mettre en relation les transformations politiques, sociales, économiques, culturelles et internationales qui façonnent le monde contemporain. Le 19e siècle y apparaît comme une période de rupture, mais aussi de recomposition, entre héritage révolutionnaire, industrialisation, construction des nations et expansion européenne. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les héritages révolutionnaires et la recherche d'un ordre politique durable. Le 19e siècle ne peut être compris sans le legs de la Révolution française et de la période napoléonienne. Les principes de souveraineté nationale, de citoyenneté, d'égalité civile et de représentation politique deviennent des références incontournables, y compris lorsque les régimes cherchent à les limiter. La question centrale est alors celle de la conciliation entre ordre social et participation politique. Restauration monarchique, expérience constitutionnelle, poussée révolutionnaire et élargissement progressif du suffrage témoignent de cette tension durable. Une synthèse consacrée au siècle permet de ne pas isoler les changements de régime comme de simples épisodes institutionnels. Ils expriment aussi des conflits sur la propriété, les libertés publiques, la place de la religion et les droits des groupes sociaux. Le livre a ainsi intérêt à faire saisir que les États européens ne suivent pas une trajectoire uniforme. Certains consolident tôt un parlementarisme, tandis que d'autres connaissent des alternances plus brutales entre autoritarisme et révolution. Cette approche rend également intelligible la formation de cultures politiques modernes, telles que le libéralisme, le conservatisme, le républicanisme, le socialisme et le nationalisme. Ces courants ne sont pas de purs systèmes d'idées. Ils organisent des mobilisations, inspirent des institutions et fournissent un langage aux affrontements politiques. Le lecteur peut ainsi relier les crises du siècle aux débats politiques qui demeurent structurants dans les démocraties contemporaines. Deuxièmement, industrialisation, capitalisme et transformation des sociétés européennes. L'industrialisation constitue l'une des fils directeurs essentiels de l'histoire du 19e siècle. Elle ne se réduit pas à l'introduction de machines dans les manufactures. Elle transforme les modes de production, les échanges, les hiérarchies sociales et les rythmes de vie. Le développement du charbon, de la métallurgie, des chemins de fer et des réseaux commerciaux favorise une croissance inégale selon les pays et les régions. Une bonne synthèse doit donc articuler innovation technique, investissements, marché du travail et rôle des États. Les effets sociaux sont tout aussi déterminants. L'essor des villes attire des populations rurales, accroît la densité des quartiers populaires et fait émerger plus nettement la condition ouvrière. Les écarts de richesse, les crises économiques et la précarité du travail alimentent des revendications collectives. Associations, syndicats et organisations socialistes prennent progressivement une place majeure dans les rapports entre employeurs, salariés et pouvoirs publics. En parallèle, les bourgeoisies industrielles, commerciales et administratives consolident leur influence culturelle et politique. Le livre permet de replacer ces évolutions dans une dynamique longue, sans supposer que l'industrie élimine immédiatement les campagnes ou les activités artisanales. Le 19e siècle est précisément marqué par la coexistence de formes anciennes et nouvelles de production. Cette nuance aide à comprendre pourquoi la modernisation produit à la fois de nouvelles possibilités matérielles, des inégalités profondes et des réponses politiques variées. Troisièmement, nation, unification et redéfinition des rapports de puissance. La question nationale est un élément décisif de la période. Au 19e siècle, la nation devient un principe de légitimité politique et un cadre majeur de mobilisation collective. Cependant, elle ne possède ni une définition unique, ni les mêmes effets partout. Dans certains espaces, elle accompagne la consolidation d'un État existant. Dans d'autres, elle nourrit des revendications d'autonomie, des séparations ou des projets d'unification. Les cas italiens et allemands illustrent particulièrement le rôle des guerres, de la diplomatie et des élites politiques dans les processus d'unification, sans que ceux-ci puissent être ramenés à un réveil spontané des peuples. Une histoire générale du siècle a aussi pour fonction de montrer comment l'affirmation nationale modifie l'équilibre européen. Après les bouleversements de l'époque révolutionnaire et impériale, les puissances tentent de stabiliser le continent par la négociation et par des alliances. Cet équilibre demeure fragile car il se heurte aux ambitions territoriales, aux rivalités dynastiques et aux mouvements nationaux. La guerre prend alors une place importante dans la construction des États et des identités collectives. En rapprochant politique intérieure et relations internationales, l'ouvrage aide à dépasser une lecture strictement diplomatique des conflits. Les frontières, les armées, l'école, les symboles publics et la presse participent ensemble à la diffusion des appartenances nationales. Le lecteur comprend ainsi que les nationalismes du siècle constituent à la fois des facteurs d'émancipation, d'intégration civique et de rivalité susceptibles de déstabiliser l'Europe. Quatrièmement, expansion impériale européenne et mise en place d'un monde interdépendant. Le 19e siècle est également celui d'une intensification de la présence européenne dans le monde. Les empires coloniaux, les interventions militaires, les échanges commerciaux, les étoiles et les migrations relient plus étroitement des territoires très éloignés. Cette dynamique ne peut être interprétée comme une simple extension géographique des États européens. Elle repose sur des rapports de force, sur la recherche de débouchés et de ressources, mais aussi sur des justifications idéologiques qui présentent la domination comme une mission civilisatrice. Une synthèse historique doit mettre en évidence le décalage entre ces discours et les réalités de la conquête, de l'exploitation et des résistances locales. Les sociétés colonisées ne sont pas passives. Elles négocient, contestent, s'adaptent ou combattent selon des contextes très différents. Le cadre mondial permet aussi de comprendre que l'Europe elle-même est transformée par les circulations de capitaux, de marchandises, de personnes et de savoirs. Les migrations vers les Amériques, le développement des communications et la multiplication des échanges modifient les horizons économiques et culturels. La mondialisation du siècle reste toutefois hiérarchisée. Elle est fortement structurée par la puissance militaire et financière des États industrialisés. En étudiant ces mécanismes, le lecteur peut situer les impérialismes dans leur contexte plutôt que de les considérer comme une conséquence automatique du progrès technique. Cette perspective éclaire les origines historiques de plusieurs inégalités internationales et de nombreuses représentations politiques durables. En dernier lieu, une synthèse universitaire appuyée sur cartes, sources et repères visuels. La spécificité éditoriale de cette nouvelle édition réside dans le renouvellement de ses outils de lecture, la maquette en couleur, les résumés introductifs, les documents iconographiques, les cartes et les graphiques sont conçus pour accompagner une matière historique dense. Ces éléments ne sont pas de simples compléments décoratifs. Une carte permet par exemple de suivre des modifications territoriales ou des espaces de domination, tandis qu'un graphique peut rendre visibles des tendances démographiques, économiques ou commerciales. Les documents sources et les citations placées en exergue invitent, quant à eux, à distinguer le récit de synthèse des traces sur lesquelles travaillent historiens. Pour un étudiant, cet appareillage favorise une lecture active, il aide à identifier une période, à dégager une question directrice et à relier des faits dispersés à une dynamique plus large. Il constitue aussi un appui pour préparer des dissertations, des commentaires ou des révisions, à condition de ne pas remplacer l'analyse par la mémorisation de repères isolés. Le positionnement du livre est celui d'une référence de travail plutôt que celui d'un essai défendant une thèse unique et étroite. Son ambition est de fournir un cadre chronologique solide et des instruments pour comparer les situations nationales. Cette combinaison entre ampleur synthétique et support visuel répond aux besoins d'un enseignement universitaire où comprendre les relations entre phénomènes s'importe autant que retenir les événements. En conclusion, Initiale Histoire du 19e siècle s'adresse en priorité aux étudiants qui ont besoin d'une base fiable pour aborder une période vaste, traversée par des changements de régime, des révolutions économiques, des recompositions sociales et des rivalités mondiales. Il peut également convenir aux candidats au concours, aux élèves de classe préparatoire et aux lecteurs déjà familiarisés avec les grandes dates, mais souhaitant mieux articuler les phénomènes entre eux. Son principal bénéfice intellectuel est de fournir une vue d'ensemble sans réduire le siècle à une succession de gouvernements, de batailles ou d'inventions. Les questions politiques sont reliées aux transformations du travail et des classes sociales, tandis que les constructions nationales sont replacées dans un cadre européen et mondial. Cette capacité de mise en relation est particulièrement utile pour préparer une analyse, une dissertation ou une lecture critique de documents. Par rapport à un manuel très condensé, l'ouvrage se distingue par son ampleur et par la place accordée aux supports cartographiques, graphiques et documentaires. Par rapport à un essai spécialisé, il offre un parcours plus large et plus directement utilisable pour acquérir des repères. La nouvelle présentation en couleur renforce enfin son usage pédagogique, notamment pour visualiser les espaces, les évolutions et les comparaisons. Il ne remplace pas des recherches spécialisées sur chaque pays ou chaque thème, mais il fournit le socle nécessaire pour les aborder avec méthode et situer leurs enjeux dans la longue durée du siècle. Si vous souhaitez soutenir Serge Berstein, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.